et bienvenue dans l'émission Confidences d'une femme preneuse. Cet enregistrement a été initialement fait au format vidéo pour ma chaîne YouTube Elisabeth Kounou, coach digital. Donc pour une meilleure expérience, je vous invite à aller regarder la vidéo sur ma chaîne. Si vous préférez le format audio, bonne écoute. Donc je vais commencer déjà par me présenter en chinois. 你好，大家好，我是伊丽莎白，我在北京住了12年，我是在北京长大的，我会讲中国话，因为我小的时候我的阿姨是中国人，我现在住在法国，我有一个小协会，我的小协会叫Mini Bon，我在这个协会给法国小孩子们教中文。 我很喜欢中国，因为是我长大的国家，但是我本来是喀麦隆人，现在我是法国人。 Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet du jour, la Chine. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée de mon challenge. Donc c'est le J2 des confidences d'une femme preneuse. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais expliquer femme preneuse. Femme preneuse, c'est un terme que j'ai créé il y a quelques années maintenant pour désigner une femme entrepreneur heureuse, une femme entrepreneur ambitieuse, une femme entrepreneur, tous les termes que vous pouvez trouver en euse. Voilà, travailleuse, généreuse. Bref, une femme entrepreneur épanouie, voilà. D'où la Femme Preneuse Academy, qui est le centre de formation dédié à tous les métiers du digital et qui me permet de donner des formations autour de tout ce qui est digital. Voilà, donc ça c'est pour la petite intro. Donc, confidence d'une femme preneuse, parce que durant toute cette série, durant l'été, j'ai envie que l'on apprenne à se connaître davantage et j'ai envie de vous parler d'autre chose que de marketing digital, que de stratégie digitale et tout ce qui tourne autour de mon expertise. Hier, j'ai commencé à vous raconter un petit peu ma vie. Et donc aujourd'hui, je vais continuer en insistant sur la partie Chine. Voilà. Donc je vais vous raconter un petit peu comment c'était la vie en Chine. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous dire là, vous êtes les bienvenus en commentaire. Donc en fait, je suis arrivée en Chine, donc j'étais un bébé de 10 mois et mes parents venaient d'être affectés, d'être envoyés en mission en Chine. Ils étaient donc dans le corps diplomatique. La Chine à cette époque, c'était un pays très fermé. Je me souviens du haut de mes 3-4 ans, tout le monde se ressemblait. En fait, ils étaient tous habillés en gris, en vert, en bleu marine dans la rue. On sentait que la révolution culturelle venait de se terminer parce qu'ils étaient tous hyper formatés. D'ailleurs, toutes les nounous que j'ai eues, toutes les aïe, comme on dit en chinois, que j'ai eues, étaient des personnes envoyées par le gouvernement parce qu'il y avait un bureau qui était dédié au personnel qu'ils devaient placer dans les familles d'étrangers parce que toutes les personnes qui devaient être en contact avec les étrangers devaient avoir été formées. Moi, je me souviens donc que toutes les femmes qui travaillaient chez nous avaient leur petit livre rouge avec toutes les règles d'un bon citoyen, d'un bon chinois. Voilà. Donc très régulièrement, il y avait des émissions à la télé, il y avait des programmes qui étaient dédiés à faire passer ce message. Donc moi, j'évolue donc dans cet environnement. Donc avant d'entrer à l'école, donc jusqu'à mes 3 ans, c'était une chinoise qui était ma nounou. Du coup, j'ai appris à parler avec elle, hein, le langage de l'enfant, bien manger, où sont tes chaussettes, où est-ce que tu vas, enfin des choses comme ça. Et après, avec les dessins animés, donc on regardait la télévision chinoise, on recevait également le câble. Durant mon enfance, je regardais les dessins animés en chinois. Donc tout ça, ça a aidé à mon apprentissage naturel, enfin, en fait. J'étais en immersion dans la langue, donc j'ai appris vraiment très naturellement. Parce qu'en fait, j'allais dans une école française. Et à l'école française, on avait la possibilité d'apprendre le chinois, mais un petit peu plus tard. On apprenait le français et l'anglais dès le plus jeune âge. Donc c'était l'école française de Pékin. Tous mes anciens camarades, big up, big up. Et dans ces environnements internationaux, c'est vraiment des rapports très étranges. C'est des rapports à la fois forts, hyper, on est hyper proches les uns des autres, Mais en même temps, on sait que ce n'est que pour 3, 4, 5 ans, puisque les uns partent, les autres arrivent, etc. Donc, quand on se revoit, ce qui nous unit, c'est vraiment l'ambiance qu'il y avait dans ces écoles. Alors, comment fonctionnait la vie là-bas? En Chine, il y avait des quartiers diplomatiques. Donc, moi, j'habitais à Sanlitun. Alors, si vous étiez en Chine et que vous habitiez à Sanlitun, ou si vous êtes en Chine et que vous habitez à Sanlitun, laissez-moi un petit commentaire pour me faire un petit clin d'œil. Donc, Sanlitun, c'était le quartier des ambassades. Bon, c'est toujours d'ailleurs le quartier des ambassades. Il y avait plusieurs quartiers diplomatiques. Et donc, les quartiers diplomatiques étaient entourés d'une barrière. Et à l'entrée, il y avait des militaires chinois qui contrôlaient les allées et venues. Donc, les étrangers pouvaient aller et venir comme ils le voulaient. En revanche, les Chinois devaient montrer patte blanche. Ils devraient présenter une carte comme quoi ils travaillaient chez un étranger qui habitait là. Tout ça, c'était pour éviter la propagande étrangère, pour éviter que des esprits chinois soient contaminés par la pensée étrangère. Donc, du coup, c'était très régulé. Ils voulaient que seules les personnes qui avaient été formées, qui sentaient aptes à affronter les étrangers, étaient autorisées à entrer dans ces quartiers diplomatiques. Il y avait également des magasins réservés aux étrangers. Et pareil, quand on était un Chinois, pour entrer dans ces magasins réservés aux étrangers, les hôtels, etc., il fallait présenter une carte de travail. En revanche, dans les marchés locaux, les marchés chinois, les boutiques chinoises, enfin, les étrangers pouvaient y aller tranquillement, sans problème. Et mes parents, comme ils voulaient vraiment que l'on soit en contact avec la culture chinoise, donc on allait aussi bien dans les magasins réservés aux étrangers que dans les marchés chinois et dans les boutiques chinoises. D'ailleurs, mes parents ont appris, ils ont pris des cours de chinois sur place, ils avaient des cours particuliers de chinois pour apprendre, à savoir que à cette époque, et je pense encore aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment besoin, quand on était dans l'environnement diplomatique en tout cas, il n'y avait pas vraiment besoin d'apprendre la langue. Si vous évoluez dans les endroits réservés aux étrangers, il y avait toujours du personnel qui savait parler l'anglais. Mais eux, ils ont vraiment fait cet effort d'apprendre la langue et ils ont bien fait vu qu'au final, on est resté pendant 12 ans. Donc en Chine, en fait, il y avait vraiment deux mondes. Il y avait le monde des Chinois, des locaux, et le monde des étrangers. Il était possible de faire des passerelles du monde des étrangers vers le monde des Chinois, mais il fallait le faire volontairement. Et c'est ce que mes parents faisaient. Les Chinois étaient très fermés et même le câble était réservé uniquement aux étrangers. Ce qui fait que les Chinois, quand ils nous voyaient, nous, noirs, en Chine, en 77, 76, début des années 80, on était des curiosités pour eux. Donc ils nous regardaient avec de grands yeux. Des fois, ils venaient, ils nous touchaient pour voir si on ne déteignait pas. Et j'étais très surprise en 2001, 2002, quand je bossais beaucoup avec la Chine, j'étais dans un salon international à Shanghai. Donc je tenais un stand avec un de mes partenaires et il y a un Chinois qui est venu vers moi et qui a fait exactement la même chose. Il m'a touchée pour voir, il me regardait avec des yeux. Donc on sent que c'est pas méchant, hein. C'est vraiment de l'ignorance, c'est vraiment de la curiosité. C'est vrai que ça nous surprend quand on n'est pas habitué, mais bon, moi comme j'avais grandi dedans, donc j'étais pas surprise, mais c'est vrai que ça peut choquer. Donc il y avait effectivement ce regard des Chinois qui étaient curieux, qui n'avaient jamais vu le monde, et donc il y avait des attitudes qui pouvaient sembler bizarres. Typiquement, quand mes parents allaient dans une boulangerie, par exemple, ils nous laissaient dans la voiture, ils allaient 2 minutes récupérer du pain ou quoi. Quand ils revenaient, il y avait des Chinois tout autour de la voiture en train de nous regarder, oui, comme si on était au zoo ou au cirque. Donc nous, du haut de nos 3, 4, 5, 6 ans, on trouvait ça, on était mort de rire en fait, on trouvait ça très drôle. Je pense qu'aujourd'hui on aurait un regard un peu différent, mais voilà. Et je pense qu'aujourd'hui ils le feraient peut-être pas de la même façon. Donc c'était un peu le genre de réaction qu'on avait quotidiennement dès qu'on était dans un milieu qui n'était pas réservé aux étrangers. Pareil quand on allait à la Grande Muraille ou à la Cité Interdite ou comment ils appelaient ça, au Temple du Ciel. Voilà. Chaque fois qu'on allait visiter un monument, le temps que mes parents aillent récupérer les tickets pour nous les ramener, on était encerclés de Chinois qui nous regardaient. Et donc quand ils voient un noir, ils appellent les copains, ils appellent la famille. Ah, regardez, regardez, il y a des noirs, il y a des noirs. Donc oui, c'était assez surprenant. Donc tout ça pour dire que le regard que je peux porter au racisme, il est un petit peu différent et un peu nuancé. parce que j'ai baigné dans un environnement où j'étais toujours regardée comme une bête curieuse. Je ne dis pas que c'est normal ou c'est pas normal, il se trouve que c'était ça, voilà. Et il se trouve que c'était lié au fait que la Chine avait été renfermée pendant aussi longtemps. Et en plus, jusqu'à aujourd'hui, dans certains coins, c'est toujours le cas. Et c'est pas que avec les Noirs. Ceux qui étaient blonds, aux yeux bleus, ceux qui avaient de grands yeux, ceux qui étaient... Tout ce qui était différent du type chinois recevait ce regard particulier. Alors avec les Noirs, c'était encore différent. Alors bien sûr, vous trouverez des racistes, hein, vous trouvez des idiots partout, hein, c'est pas le propre de la Chine. Donc il y avait effectivement des gens, des Chinois qui avaient de l'animosité vis-à-vis des Noirs. Ça, c'est indéniable. Il y avait beaucoup d'étudiants à cette époque qui allaient faire leurs études en Chine, qui rencontraient des Chinois, ils tombaient amoureux, voilà, ils avaient fondé des familles, etc. Et du coup, les Chinois, les hommes... étaient un petit peu détestaient ces noirs parce que pour eux le noir était inférieur, pour eux c'était pas possible que le noir vienne chez eux et ait beaucoup plus d'argent qu'eux, pour eux c'était inconcevable qu'un noir se mette en couple avec une chinoise, une des leurs, donc tout ça, ça créait des tensions et il y avait bien évidemment des tensions au sein des étudiants africains en Chine, parmi les étudiants africains en Chine. C'était un phénomène, oui, qu'on retrouvait assez souvent, mais ça n'a pas empêché des couples de se former, des femmes chinoises de quitter la Chine pour aller en Afrique, s'installer, qui est au Cameroun, qui est en Guinée, avec leur amoureux. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était très particulier. Alors donc je ne dirais pas d'une façon générale que les Chinois sont racistes, je dirais que les Chinois ne connaissent pas le noir, je parle vraiment par rapport à moi, hein, je ne parle pas des autres différences, et donc ils ont un rapport très étrange au noir, d'amour et de haine. Alors avant de finir avec l'épisode Chine, je vais vous raconter une petite anecdote. On était dans une boutique donc réservée aux Chinois, enfin une boutique pour les Chinois, et il y a une dame à côté, son fils lui demande « Mais pourquoi ils sont noirs ?» Alors la mère qui lui dit c'est sans doute parce que quand ils étaient petits, ils sont restés enfermés pendant des heures et des heures dans une pièce toute noire, et donc c'est pour ça qu'ils sont noirs. C'est arrivé plusieurs fois ce genre de remarques, ce genre de réponses complètement à côté de la plaque données par des Chinois ignorants qui ne savaient pas ce qu'était qu'être noir et qui, ne voulant pas se retrouver voilà dépourvus face à la question de leur enfant, leur donnaient des réponses aussi absurdes. Donc lorsque cette situation s'est présentée, ma mère qui répond non, en fait on n'est pas noir parce qu'on reste enfermé, on est noir juste parce que voilà, on est né comme ça, quoi. Il y a des personnes qui naissent comme vous et il y a des personnes qui naissent comme nous. Et du coup, oh, surpris, parce que déjà, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on parle leur langue. Donc, oh, oh là là, qu'est-ce qui vient de se passer? Et ensuite, donc la dame, elle a enchaîné en disant, mais comment ça se passe la vie chez vous? Vous vivez dans les arbres? C'est comment vous vivez au quotidien? Et ma mère de répondre, oui, 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 bien sûr qu'on vit dans les arbres. Et vous savez quoi? L'ambassadeur de Chine au Cameroun, il vit dans le plus grand arbre de la capitale. Donc, vous voyez, il en a de la chance hein, de vivre dans un arbre. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, on avait droit à des remarques vraiment toutes plus farfelues les unes que les autres. Donc, c'était facile de le prendre avec du recul parce qu'on savait que, voilà, c'était juste dû à l'ignorance des gens, voilà, tout simplement. Donc on quitte la Chine en 1989, c'est Tiananmen, tout ce qui s'est passé, le massacre qui a eu lieu d'étudiants qui demandaient la démocratie sur la place Tiananmen. Je me souviens de notre appartement à Sanlitun, on voyait passer les chars de l'armée chinoise en direction de la place Tiananmen. Nous on était un petit peu plus loin par rapport à la place Tiananmen, mais il y avait des quartiers diplomatiques non loin qui ont essuyé des tirs de balles sur des façades, enfin c'était vraiment vraiment très chaud, et on voyait comment l'info était traitée d'un côté par la presse chinoise et de l'autre par la presse internationale à travers le câble. Donc c'était assez surprenant d'être au cœur du sujet et de sentir la différence de traitement de l'information. C'était un petit peu flippant quand même, mais c'est pas à cause de ça qu'on est parti. Mes parents savaient déjà qu'on devait rentrer au Cameroun, et c'est tombé juste après les événements de l'été 1989. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour l'épisode Chine. Si vous avez d'autres questions par rapport à cela, ben, n'hésitez pas.
Et pour finir, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion. Merci chers auditeurs pour votre écoute. Le contenu vous a plu? Dites-le moi en commentaire ou laissez-moi un avis. Cela me ferait tellement plaisir de vous lire et en plus cela permettra au podcast d'être découvert par d'autres, ce qui m'aidera grandement. Merci d'avance. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire un tour sur mon site, rendez-vous sur elisabethcounou.com. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À très vite !